Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Nous sommes maintenant même en train de faire une série. Cette série a pour thématique ce mot « respire ». Tout le monde respire un bon coup, s'il vous plaît. Respire. Trop de chrétiens en France en ce moment sont étouffés par la politique, étouffés par la dépression, étouffés par les impôts, étouffés par le manque d'argent, étouffés par la solitude, étouffés. Cela n'est pas normal dans l'Église. Cela est normal en dehors de l'Église, mais il n'est pas normal qu'un chrétien ne respire pas quand Jésus a dit dans Jean 10:10 qu'il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Le diable vient pour voler, pour détruire, mais Dieu, Jésus-Christ, est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. On a vu ensemble plusieurs points que je vais rapidement citer. Vous pourrez acheter le message, vous l'écouter plus tard, mais la première chose, on parle de cette crise cardiaque spirituelle, on parle de ce fait qu'il y a des chrétiens qui ne respirent plus ou qui respirent moins ou qui respirent difficilement. On parle de ce chrétien qui est sur le point d'avoir une crise cardiaque spirituelle qui peut être fatale. Et Dieu veut ce matin que nous vivions une vie de victoire. Il veut que nous passions au-dessus des obstacles, au-dessus des tempêtes. Il veut que nous marchions sur les eaux agitées. Dieu veut que nous ayons le caractère de traverser une saison de tempête. La première qualité qu'il nous faille avoir pour traverser une tempête, il faut la traverser. Ne jamais s'arrêter en pleine tempête. Il faut vivre plus longtemps que la tempête si tu veux avoir l'impact après la tempête. On a vu ensemble donc qu'il y a des signes, et je vais conclure là-dessus ce matin, des signes qui nous prouvent que nous sommes peut-être une victime d'attaques spirituelles, d'un esprit de python, si vous voulez, un esprit qui nous étouffe, qui nous empêche de respirer. Et si c'est votre cas ce matin, la grâce de Dieu, depuis plusieurs semaines, j'ai eu beaucoup de témoignages qui m'ont encouragé, ça va de mieux en mieux, vous commencez à comprendre que ce n'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi qui veut vous étouffer, et vous refusez d'être étouffé, vous choisissez de respirer. Premier signe ce matin, on a vu, c'est la perte du désir spirituel pour les choses de Dieu et de son royaume. Perdre le désir spirituel pour les choses de Dieu. On a vu ensemble que si par exemple le sport, et j'aime le sport, mais si le sport me procure plus d'énergie, plus de joie, plus de passion que la présence de Dieu, c'est que je suis déjà en danger. Le sport c'est génial, mais le sport ne remplace pas la présence de Dieu. Deuxième chose, on a vu ensemble, et le verset clé pour le point numéro 1, c'était Psaume 63 où David dit « Je te cherche, je soupire après toi, mon Dieu, j'ai soif de toi, je te recherche », d'accord ? Deuxième point était la fatigue physique et émotionnelle, la fatigue physique et émotionnelle. Quand un chrétien est continuellement fatigué, dans ses émotions, toujours déprimé, c'est qu'il y a un problème. Dieu est le Dieu qui fortifie. Et Dieu, par sa générosité, a créé un monde extraordinaire où il a donné un paquet avec un tas d'aliments qui nous donnent des forces. Il a créé un paquet d'aliments qui nous permet de nous nourrir. Le rougail saucisse, salade verte. Il a fait en sorte que nous soyons des hommes et des femmes qui ont des émotions. Et il a fait en sorte de pouvoir envoyer quelqu'un dans ta vie quand il veut te construire. Quand Dieu veut construire une vie, il envoie quelqu'un. Quand le diable veut détruire une vie, il envoie quelqu'un. D'où l'importance de savoir s'entourer des bonnes personnes pour s'édifier dans ses émotions. Le troisième signe qui pourrait nous prouver que nous sommes peut-être la victime et la cible d'attaques spirituelles soutenues, c'est lorsque le manque règne en maître, quand tout disparaît. Je ne parle pas d'un moment difficile où tu perds un peu d'argent ou tu perds ton emploi. Ça peut arriver à tout le monde de perdre son emploi. Je parle lorsque tu te rends compte que tu fais tout bien. Tu viens à l'église, tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, tu lèves tes mains, tu adores le roi des rois. Mais rien ne se passe comme prévu, tout est fermé. Il y a un problème spirituel. Il faut que tu apprennes à te battre, prendre position, aller voir les bonnes personnes, prendre les bonnes décisions, revoir tes priorités et aller de l'avant. Quatrième point qu'on a fini là-dessus la dernière fois, c'est lorsque ma vie de prière est faible ou inexistante. Et on a vu ensemble que lorsque je ne prie pas, Lorsque je ne prie pas, je prouve que je dépends de moi. Et lorsque je prie, je prouve que je dépends de lui. Lorsque je ne prie pas, je prouve que je dépends des autres. Lorsque je prie, je prouve que je dépends de lui. On a vu ensemble que lorsque je ne priais pas, j'avais tendance à aller dans la chair. On a vu que Pierre, n'ayant pas pu prier une heure avec Jésus, lorsque les soldats sont venus prendre Jésus-Christ et l'arrêter, Judas a réagi dans la chair. Il a voulu régler un problème divin avec des capacités humaines. Il a pris son épée, il a voulu trancher la tête de Malchus, ça s'est mal passé, et il a tranché l'oreille. Et je me souviens vous avoir dit que lorsque nous essayons de régler un problème divin avec une manière humaine, nous allons trancher les oreilles de ceux et celles qui peuvent entendre Dieu leur parler. En d'autres termes, lorsque nous voulons faire les choses de Dieu à la façon humaine, parce que nous n'avons pas assez prié, nous privons les autres d'entendre ce que Dieu a à dire. Important d'avoir ce style de vie où nous prions, la vie de prière est intense afin qu'elle te maintienne par l'esprit et que tu fasses les choses par l'esprit. Et déjà cela, c'est difficile. Mais si tu ne pries pas, tu ne lis pas ta Bible, tu n'es pas passionné pour la prière, je te garantis, tu es déjà en danger, tu es une cible facile. Ne pas prier revient à marcher avec une grosse pancarte en disant « Satan, viens me flinguer, je suis prêt ». C'est la même chose. La prière te camoufle aux yeux de l'ennemi. La prière est le camouflage du chrétien, capable d'entrer dans les lignes ennemies, sauver ceux qui sont perdus, les arracher de l'enfer et repartir au ciel. Celui qui ne prie pas, c'est comme un gars qui marche avec plein de néons sur lui, en plein milieu de Bagdad, en disant « J'aime pas les Arabes, j'aime pas les musulmans, je suis américain. Flinguez-moi si vous le pouvez. Mais t'es mort, mec, c'est fini. T'es ciblé. Il y a plein de petits points rouges partout. Tu deviens une passoire. » La clé d'une vie spirituelle qui refuse d'être victime d'attaques spirituelles, c'est aussi et surtout la prière. Passer du temps avec Dieu. Le cinquième point ce matin, qui nous parle des signes, c'est lorsque tu te sens inutile, sans valeur, sans espoir. Oh, là seulement, il y a beaucoup de chrétiens qui, malgré des années à venir à l'église, entendre la parole, lire la parole, chanter des chants, arrivent à me dire en face, sans même sourciller, je suis nul. On va lui dire, mais tu étais où toi depuis 10 ans? À l'église. Non mais quelle église? Pas chez nous, pas ici. Impossible de se tenir dans la présence de Dieu et de continuer à croire que tu es nul. Impossible. Quelqu'un a dit un jour, si tu passes du temps avec Dieu et que tu sors du monde prière et que tu es exactement comme avant, alors tu as passé du temps avec tout le monde sauf Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu te change. Le vrai Dieu, lorsqu'il te parle, il te remplit de son identité en toi. Tu te rends compte que tu n'es pas un moins que rien, tu n'es pas inutile, tu n'es pas nul, tu n'es pas naze. Tu es une création extraordinaire, celle que Dieu a façonnée avec toi dans ses pensées. Cela arrive lorsque les circonstances deviennent ton Dieu. Écoutez bien ça. Quand tu te sens nul, cela signifie que les circonstances ou ce que les autres pensent de toi sont devenues tes idoles. Si Dieu est sur le trône, tu es un plus que vainqueur. Si Dieu n'est pas sur le trône, remplacé par les circonstances, ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ce que la France veut, ce que la culture ordonne, si ces choses-là sont sur le trône de ton cœur, tu te sentiras nul. Et tu seras une victime facile, tu ne pourras pas aller de l'avant, gagner des âmes, prêcher la parole de Dieu avec feu, inonder ta maison de la gloire de Dieu et ta ville. Tu ne pourras pas faire ces choses parce que tu es une victime de tout ce qui n'est pas en Dieu. Le nombre de gens qui me disent, c'est bon, j'en ai marre, je m'arrête, j'ai envie d'abandonner, je suis fatigué, à quoi bon? Vous savez quoi, mes amis? L'abandon est l'arme favorite des orgueilleux. Seuls les orgueilleux abandonnent. Parce que lorsque tu es humble, tu peux faire confiance à la faveur de Dieu. La Bible dit que Dieu fait grâce au... Comment est-ce que quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu peut abandonner ? C'est impossible. Donc, de l'instant où tu ne reçois plus la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu te résiste. S'il te résiste, c'est parce que tu es orgueilleux. Donc, c'est pour cela qu'un chrétien ne peut jamais dire « j'abandonne ». À avoir envie, peut-être, une fois ou deux, ça, oui. Mais abandonner vraiment, non. Regarde ton voisin et dit « tu es un chrétien ». Dis-lui, ça veut tout dire. Je connais des gens qui quittent l'église locale parce qu'on ne dit pas bonjour, ou parce qu'on a oublié de faire ça, ou parce qu'on ne prend pas la scène tous les dimanches, ou parce que c'est n'importe quoi. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont une espérance. Nous sommes des hommes et des femmes qui comprennent que Dieu est plus que vainqueur en nous et que Dieu a un plan pour nous. Jérémie 29, 11 nous dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en ta faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Entre termes, quelle que soit ta circonstance aujourd'hui, ne laisse pas ta circonstance devenir ton Dieu. Laisse Dieu régner dans ta circonstance. Alors le cinquième point, c'est que tu es une cible d'attaque spirituelle. Tu es sur le point de vivre une crise cardiaque spirituelle si tu tombes dans le piège de croire que les circonstances sont une prison. Non. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le sixième point ce matin qui nous prouve que nous sommes peut-être une cible, cela va faire mal, je vous promets. Lorsque les vieilles habitudes et l'ancien style de vie refont surface, tu vois, quand tu es chrétien de longue date et que tu te rends compte que ton vieil homme reprend trop de place, là, tu es sûr que tu viens de tomber dans le piège du diable, tu es déjà une cible facile de l'ennemi. Exode 16, 3 nous dit, et ce passage-là me choque tout le temps, mais « Et ils leur dirent, ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant les marmites pleines de viande, où nous mangeions du pain à satiété, tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Ce verset, c'est les paroles du peuple d'Israël qui, après avoir vu la main de Dieu agir par des miracles extraordinaires, la mer rouge ouverte. Quelqu'un m'a dit un jour, tu sais Bruno, je ne crois pas à ton histoire de mer rouge ouverte. À l'époque, il était prouvé que la mer rouge avait sa dos. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël est passé dans sa dos. En fait, ils avaient l'eau jusqu'aux genoux, même pas. Je dis, c'est pas grave, mon Dieu, encore plus puissant parce qu'il a coulé une armée entière avec les chevaux dans sa dos. Dans les deux côtés, je gagne. Siro. Ne dites pas à vos enfants que c'est une histoire de la Bible. C'est pas une histoire, c'est l'histoire. C'est une vraie histoire lorsque une armée entière a coulé dans la mer Rouge, qu'il y ait un mètre d'eau, 50 cm d'eau, pas d'eau du tout, ils sont coulés quand même. Mais eux arrivent après tous ces miracles-là et disent « Oh, on aurait dû mourir en Égypte !» Tu vois, quand l'Égypte ou le monde redevient plus attrayant que le plan parfait de Dieu, t'es mort. Ou en tout cas, t'es en danger grave. Il va falloir ramer pour revenir. Ok, combien ont déjà vécu ce moment-là où tu es à fond pour Dieu, tu es en feu pour Jésus, mais je ne parle pas d'un péché qui vient et que tu pèches et tu repens, ça c'est rapide. Je ne parle pas de ça, ça arrive à tout le monde. Je parle de cet esprit du monde qui te prend et tu es tellement tenté que tu passes plus de temps à aller voir tes copains du monde et la boîte de nuit. Quelqu'un a vécu ça où c'est plus fun à l'extérieur qu'à l'intérieur, qu'il y a quelques gars qui sont honnêtes, c'est super. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Quand j'étais jeune chrétien, au bout de 2 ans de vie chrétienne, j'en ai eu marre. Je ne sais pas si tu as vécu ça, Julien. Moi, j'ai vécu ça. J'en ai eu marre de l'église. Ce qui me gavait le plus, c'est d'avoir tous ces chrétiens qui venaient dimanche après dimanche chanter les mêmes cantiques, qu'il n'y a pas de passion en eux. Moi, quand je fréquente des gens qui n'ont pas de passion, je m'en vais. Pour être pas vulgaire. Je prends mon corps et je m'en vais. Je ne supporte pas le manque de passion. J'aime gambader. J'aime quand il y a la vie. Mais au bout de quelques temps, il n'y avait plus la vie. C'était Jésus, prends tout, Seigneur. Et pipo. Et donc moi, j'ai commencé à être intéressé par 2 filles. Quand une marchait pas, il y avait la deuxième. Et les 2 filles m'invitaient à aller en boîte avec elles. J'étais membre du groupe de louanges. Oui, moi, Bruno Picard de Nazareth. Et je me suis dit, tu sais, après tout, j'ai connu ce monde-là. Mes parents sont nés en boîte de nuit. Et j'ai connu ce monde-là. Je sais où sont les limites. Il n'y a rien de mal de s'asseoir avec 2-3 copains, 3 copines, danser un petit peu, tu mets tout honneur. Puis le matin, j'irai servir Dieu.
Ouh!
Et le soir, c'est I will survive. I'm gonna find a rain. Le matin, Alléluia, Jésus est glorieux, sa guitare. Personne ne savait. Personne. J'étais vraiment fort pour ne pas me faire remarquer. Un dimanche matin, au bout de 2 mois et demi, la femme du pasteur, Sylvaine à l'époque, femme de Dieu, remplie de l'esprit, vient me voir et me dit « Tu ne peux pas servir Dieu et Satan. Si tu vas en boîte de nuit, vas-y à fond, mais tu n'es pas dans le groupe de louanges, tu n'es pas un vrai chrétien. Si tu es un vrai chrétien, tu emmènes ta fraise ici, tu loues Dieu et tu changes le monde. Au revoir. » Je dis, mais comment est-ce qu'elle a su ça? Alors je dis, quelqu'un vous a parlé? Elle me dit oui. Son nom est le Saint-Esprit. Là, tu vois le mot crainte de Dieu là? Je fais, ah bon? Et elle m'a décrit exactement comment j'étais habillé la veille, ce que j'ai dit, que personne ne pouvait savoir parce que les 2 filles n'étaient pas du tout dans le mode de parler. Elle m'a décrit la scène, les paroles, au mot près. Ce jour-là, je me suis souvenu que Dieu n'était pas un concept. Mes vieilles habitudes, l'Égypte me paraissait plus fun que l'Église. L'Égypte, le monde. Quelle différence il y a entre aimer le monde et aimer l'esprit du monde? Quand tu aimes le monde, tu les gagnes à Christ. Quand tu aimes l'esprit du monde, il t'arrache de Christ. Quand tu aimes le monde, tu fais tout pour les arracher et les gagner à Christ. Mais quand tu aimes l'esprit du monde, tu te laisses gagner par lui. Et donc tu commences à vivre comme les gens du monde, en proclamant que tu es chrétien. Alors je comprends qu'il faut être la lumière dans le monde. Mais personnellement, je n'ai pas besoin d'aller en boîte de nuit pour éclairer les ténèbres. Il suffit de sortir de chez moi. Je vais vous dire ça parce que ça tapait là. Pas la peine d'aller en boîte de nuit pour briller comme une lumière. Sors de chez toi, appelle ton voisin, appelle ta tante, tante Marguerite. Et tu verras. Va à l'école de tes enfants, deviens pote avec ton patron, et tu verras qu'il y a assez de ténèbres autour de toi pour briller. Qui connaît l'homme de Dieu à l'époque qui s'appelait Jimmy Swaggart? Ok, pas beaucoup d'entre vous. Jimmy Swaggart était un des hommes de Dieu les plus loin du siècle présent. Un homme de Dieu. J'ai encore dans mon cœur le message du jugement du trône blanc. C'est encore en moi, ça. Je me dis, pff, tu pleures. Quand le gars prêchait, il y avait des milliers de gens. Tout le monde pleurait. Tellement qu'il avait la puissance de conviction, de péché. C'était une saison spéciale, mais c'est un homme de Dieu spécial. Et pour raison que j'ignore, il a commencé à vouloir évangéliser les prostituées. Jusqu'au jour où il est tombé avec une prostituée. Ouais, par la grâce de Dieu, il a été restauré, il s'est repenti. Et, ok, mais son ministère n'a plus jamais été le même. Plus jamais. Tout ça parce qu'il n'a pas su faire la différence entre le monde et l'esprit du monde. Lorsque tes habitudes anciennes, ton ancien style de vie refont surface, attention, tu es en danger. Si l'alcool reprend trop de place, attention, tu es en danger. Si les pensées pornographiques reviennent, tu es en danger. Si tu as envie de tromper ta femme avec celle de ton voisin, tu es en danger. Je ne parle même pas de le faire, je parle d'avoir envie. Et ça, c'est les signes que nous devrons nous garder en tête, j'espère, dans nos cœurs, tout le long de notre vie, et aider les autres à ne pas tomber. Je veux vous voir respirer. Dieu veut que vous respirez. Il veut te voir en bonne santé, heureux, ferme, solide, puissant. Septième point et dernier point qui nous prouve qu'on est en danger. C'est lorsque j'ai envie de prendre de la distance avec ceux et celles que Dieu place dans ma vie. C'est une chose que d'être attiré par les anciennes habitudes. C'est une chose que d'être attiré par l'Égypte. Ce qui peut te protéger de l'Égypte, ce sont ceux et celles que Dieu a placés dans ta vie. Laissez-moi vous dire une chose puissante ce matin. Dieu ne va pas choisir de mettre dans ta vie ceux et celles que toi tu vas choisir. Oh, oh. Parfois tu choisiras plein de gens que Dieu n'aura pas choisi pour toi. Mais Dieu va choisir des gens qui vont être là comme des protecteurs, des hommes et des femmes qui seront là pour t'aider, pour t'aiguiser, pour te protéger. Mais toi, souvent, tu ne choisiras pas ces gars-là. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas envie de les entendre. Quand tu as envie de pécher, tu vas écouter qui ? Celui qui va t'empêcher de pécher ou celui qui va t'encourager à pécher ? La plupart des gens qui critiquent vont critiquer avec ceux qui aiment les critiques. Si quelqu'un vient critiquer quelqu'un avec toi, c'est parce qu'il sait que toi, tu aimes les critiques. Tu devrais flipper. Quand quelqu'un vient te voir, tu sais la dernière, tu sais lui, elle, lui, elle, tu sais. Ça signifie que pour lui, tu es tagué « j'aime les critiques ». Ouh. Moi, les gens savent. Quelqu'un vient me voir pour critiquer, je dis « est-ce que tu es voir ton frère ?» Non, on va le voir ensemble. Ah non, c'est anonyme, c'est pour que on prie. Viens, on va le voir ensemble. Je peux te garantir, la personne, ou bien elle change, ou bien elle jamais plus, elle vient critiquer avec moi. Parce qu'elle sait que dans ce domaine-là, j'ai le ministère de la délation. Non, il n'y a pas de protection des témoins. Je veux redire ça, parce que c'est important. Il n'y a pas de protection des témoins dans le corps de Christ. Bon, écoute, j'ai un scoop pour toi. Henri Paul a volé 2 huîtres, tu ne le dis pas, on va prier pour lui. L'autre, et tu sais en fait, Philippe, Henri Paul a volé 2 huîtres plus 2 pieuvres plus 1 poisson rouge. Rien débarque, tu sais, Henri Paul a volé un aquarium. En fait, tu sais, Henri Paul a pris l'océan Indien, l'a mis dans sa piscine. Voilà. Et tout le monde tagué, critique avec moi, nous sommes des critiqueurs, on aime, viens. Et tu pourris ta vie, celle des autres, et cela, parce que tu n'as pas compris qu'il y a des gens qui sont là pour t'empêcher de le faire, d'autres qui sont là pour célébrer quand tu pêches. Et un des signes que j'ai appris dans ma propre vie, je n'aurais pas dû aller avec ces deux créatures. À l'époque, ils m'ont entraîné, à cause d'elles, j'y suis allé. J'étais une victime de leur mode. Non, j'ai choisi d'y aller, je le savais. Et Dieu m'a sauvé encore juste à temps, juste avant que je fasse les plus grosses bêtises, par sa grâce. J'avais persévéré, je n'aurais pas connu Élodie. Je n'aurais pas eu Lisa et Anna. Oula, Lisa, chérie, ça va? J'ai pas vu. Lis ton cahier. ce matin. Et je n'ai pas eu Théo. Tout ça pour vous dire qu'il est important, chère Lisa, d'accepter que Dieu place dans ta vie des gens qui vont te protéger. Nos parents sont des gens qui nous protègent. Mon père m'a toujours dit, Bruno, ma mère était plus cool. Mon père m'a dit, Bruno, tu sais, si tu couches avec une femme avant le mariage, tu voles son trésor le plus précieux, le trésor de ses parents ont le plus précieux. Tu ne toucheras jamais mon fils, une femme, avant le mariage. Bouche les oreilles. Et les quelques fois, plusieurs fois, où j'ai eu l'occasion de devenir un homme, cette petite phrase qui dit « Tu ne voles pas le trésor ». Où ça ? Quel trésor ? Je vous promets, j'ai pas fait. Et je suis arrivé vierge à mon mariage. Elodie aussi. Elodie, t'es en prison. Elodie, c'est normal, c'était une prison dorée. Mais une prison quand même. Alain ne voulait pas que sa fille sorte. Donc elle ne sortit pas. Merci Alain. Merci. Le gars qui aurait osé pénétrer le clan Mandos, fini bruit. Mais, écoutez bien ça, quand mon père me disait ça, là, ça m'énervait. Ce que tous mes copains faisaient. Et parlaient entre eux, tu sais, ouais, je fais ça, c'est cool ça, ouais, tu sais, je fais... Tu dis, ouais, t'es... Et toi alors... Attends, je reviens, je vais boire un peu d'eau. J'avais honte. Tous mes copains étaient devenus des hommes. Ouais, ouais. Et moi, je suis le seul gars, ou presque, non, le seul dans ma classe, que j'ai jamais fait. Parce que je ne voulais pas voler le trésor d'une famille. Je voulais qu'on me le donne. Et ce jour-là, mon père n'était pas la personne que je voulais choisir, comme le considérant comme quelqu'un que Dieu a mis dans ma vie. Ramenez ça à votre vie aujourd'hui. Vous pouvez voir ce matin même, là, maintenant même, si vous êtes des chrétiens protégés en établissant une liste des gens que Dieu a mis dans votre vie pour vous protéger. Si vous ne l'avez pas, vous êtes comme cet Américain qui se trimballe en néon du style « Attrapez-moi si vous pouvez » en plein milieu de Bagdad, d'Afghanistan, du Pakistan, d'Ouzbékistan, tout l'Estan. Je vous garantis que si vous voulez avoir une vie pourrie avec Christ, il suffit de ne pas avoir de relation puissante avec l'Église. Il suffit simplement, je parle d'Église, je parle pas seulement de ce dimanche, je parle des groupes de maison, je parle d'amis chrétiens, il vous suffit de continuer à faire le Lucky Luke, l'ensemble cowboy, le cowboy tout seul, solitaire. J'ai vu des dizaines de chrétiens perdre ou retarder leur appel. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le Proverbe 18:1 est un passage très puissant. Je finis avec ça dans 2 minutes. Proverbe 18:1 nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, et il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. » Quand un chrétien me dit « Pasteur, je prends un break. » Ok. En fait, tu as envie de faire ce que tu veux faire, tu es offensé, tu n'as pas envie de pardonner, ou bien je t'énerve, ou bien Steph t'énerve, ou bien tout le monde t'énerve, mais tu n'as pas envie d'être responsable dans tes relations, de construire les relations. Tu préfères fuir que de faire face au problème et de dire « Tu sais, tu m'as blessé, il faut qu'on en parle, est-ce qu'on peut en parler ?» Tu préfères t'isoler, prendre un break et te faire breaker par l'ennemi. Parce que lorsque Dieu veut construire une vie, il t'envoie quelqu'un. Lorsque le diable veut détruire une vie, il t'envoie quelqu'un. Regarde ton voisin et dis, tes amis sont une photographie de ton futur. Tes amis d'aujourd'hui sont les photographies de ton futur. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu deviens. Dis-moi qui tu fréquentes aujourd'hui. Dis-moi qui sont tes amis aujourd'hui. Je ne parle pas d'avoir cette amitié pour les gens qui sont perdus et pour les pécheurs. Je comprends ça, mais je parle de vous confier dans quelqu'un qui n'est pas proche de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous encourager. Malheureusement, j'ai fait le tiers de mon message. Je finirai ça le week-end prochain, le week-end d'après. Écoutez bien, Église. Ce matin, je vous encourage à venir parce que je crois sincèrement que vous et moi, nous devons urgemment, mesurer le niveau de passion que nous avons pour Dieu, pour les choses de son royaume, pour son Église, qui est vous et moi, mesurer la passion que nous avons pour le ministère que Dieu nous donne, mesurer le niveau de passion que nous avons pour ce qui passionne Dieu et mesurer le niveau de haine que nous avons pour ce que Dieu est. Et si vous et moi, nous sommes capables de répondre à ces questions par oui, en disant Seigneur, oui, je suis passionné par toi, passionné par l'Église, passionné par... Si ces choses-là sont dans vous, alors vous maintiendrez le cap et vous traverserez les saisons et vous serez des hommes et des femmes que tout le monde veut imiter. Avec les erreurs, avec les problèmes, mais les gens vont vouloir imiter parce que tu es vrai, tu es stable. Marc en a parlé dimanche dernier, tu es stable, tu es ferme, tu es solide, on peut s'appuyer sur toi, tu es un pilier dans l'Église. J'ai lu ce matin un passage, je crois que c'est un proverbe qui dit que le juste montre à son ami la bonne voie. Si toi et moi on est juste en Christ, alors on est responsable de ce que nous montrons à nos amis. Est-ce que nous leur montrons la bonne voie? Cela commence par le leader ici extravagance. Nous devrions être à chaque célébration passionnés et prendre de temps en temps un week-end off. C'est normal. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'au 21e siècle, avec tout ce qui se passe, que nous les chrétiens, nous prenons la vie chrétienne, cool. Relax. On n'est pas relax, on est en guerre. L'ennemi prépare continuellement des attaques contre ton couple, ta famille, tes voisins, tes enfants, tes finances, tout le temps. Tu es en guerre. Et tu peux être plus que vainqueur. Tu peux respirer. Tu peux être solide. Tu peux devenir un pilier. Il suffit de dire à Saint-Jésus, je veux être un pilier selon ton cœur. Je veux faire les choses selon toi. Je veux que ma fille me regarde en disant, papa, je veux un mari comme toi. Plus beau que toi, ok, mais comme toi. Qu'il soit stable. J'ai lu cette phrase qui m'a touché ce matin, très tôt. C'est tous les matins, j'essaye entre 5h et 7h d'étudier la parole de Dieu, de lire, d'étudier. Tous les matins, quasiment. Surtout en vacances. Parce qu'en vacances, j'ai plus de temps. Et quelqu'un dit, un homme, avant de tout faire pour ouvrir la porte pour sa femme, doit apprendre à ouvrir une Bible pour sa femme. Ouvrir une porte, c'est très romantique, très chouette, mais ouvrir la Bible, ça sauve un couple. Où sont les hommes ce matin qui me disent en face, j'ouvre ma Bible tous les jours pour ma famille? Où sont les hommes et les femmes qui me disent, nous ouvrons notre cœur à Dieu tous les jours pour entendre ce que Dieu veut dire à nos enfants tous les jours? J'ai besoin ce matin que vous et moi nous puissions quitter cette première étape. Cette série Respire, il y a encore plusieurs points qu'on verra ensemble cette année, les semaines qui viennent. À la fin de cette série, vous serez des hommes et des femmes qui ont appris à respirer selon Dieu.